Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ce sont des trésors enfouis que nous vous proposons cette semaine sur Europe 1, dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous emmène sur les traces des chasseurs de trésors.
Bonjour à tous. Le trésor de la baie de Vigo est un peu comme le monstre du Loch Ness, on en parle beaucoup, mais on ne l'a jamais vu. La différence sans doute, c'est que ce trésor existe forcément, qu'on a des traces certaines de son naufrage au tout début du XVIIIe siècle et que dès lors, il n'a pas fini d'enflammer les imaginations. Pour en parler, j'ai invité le premier chercheur français de trésors archéologiques sous-marins, Éric Surcouf, qui descend de Surcouf, le roi des corsaires. Il est en France le plus grand spécialiste des trésors.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Les bateaux qui relient Bordeaux à Casablanca ou à Dakar découvrent à bâbord, un bon moment après avoir doublé, vous savez, ce cap en forme de carré, que forme la péninsule ibérique et qu'on appelle Finistère, eh bien ils découvrent une jolie baie qui accroche le soleil, aujourd'hui une baie peut-être un peu trop bétonnée, avec des quais, des pires, des digues un peu envahissants, c'est la baie de Vigo. Vigo, port de commerce assez important, chef-lieu méridional de la pêche à la sardine, et si vous posez la question à tous les gens du coin, ils vous diront Vigo, mais c'est le pays du trésor. Ah oui, et quel trésor? Mais le trésor de la baie de Vigo, l'un des plus célèbres de la planète, un trésor qui depuis 3 siècles maintenant fait tourner la tête de tous les chasseurs de fortune. Écoutez, c'est bien simple, j'ai entre les mains la page tirée d'une édition du Parisien datée du 18 octobre et qui présente une carte du monde où figurent 20 grands trésors encore à découvrir. Eh bien naturellement, celui de Vigo y figure en bonne place. Alors de quoi s'agit-il au juste? Qu'est-ce que c'est que ce trésor de Vigo? Eh bien, il faut nous replonger dans l'histoire du siècle d'or espagnol. Vous savez que, depuis la conquête du Nouveau Monde, les conquistadors n'ont cessé d'envoyer vers la métropole des cargaisons entières d'or, d'argent, de pierres précieuses, une manne inespérée pour la couronne de Castille, qui du coup est devenue la plus riche du monde. Vous imaginez bien que le convoyage de tous ces trésors ne pouvait qu'aiguiser l'appétit des pirates, des corsaires en tout genre, qui pendant tout le XVIe et tout le XVIIe siècle ne vont pas cesser de s'attaquer à ces galions venus d'Amérique et chargés de richesses à peine croyables. La pression sur les navires espagnols va devenir si forte, en fait, qu'en 1699, ordre est donné au capitaine espagnol de cesser les traversées. C'est pas la peine d'envoyer des navires à travers l'Atlantique si c'est pour les voir systématiquement arrêtés par des pirates. Donc en 1699, on met ce coup d'arrêt et voilà les métaux précieux, les pierres précieuses qui s'accumulent désormais dans les ports lointains d'Amérique latine, dans les ports espagnols. Et puis en 1701, Louis XIV accepte la couronne d'Espagne. D'ailleurs, c'était en 1700 que Louis XIV accepte, et puis c'est dès 1701 que ça commence à poser un gros problème en Europe. Louis XIV accepte la couronne d'Espagne pour son petit-fils, le duc d'Anjou, qui devient le roi d'Espagne Philippe V. Et d'un seul coup, on peut dire que la donne change. C'est maintenant la puissance politique et militaire de la France, à l'époque première puissance du monde, qui se met au service de l'Espagne. La marine de Louis XIV va pouvoir protéger les convois du Nouveau Monde, le grand roi depuis Versailles donne des ordres pour que l'amiral de Château-Renaud soit envoyé en Amérique à la tête d'une flotte de guerre qui sera destinée à escorter les galions espagnols de l'amiral de Velasco et de les escorter jusqu'à Cadix. La grande traversée commence en août 1702. Autant dire en temps de guerre, parce qu'entre-temps, l'Europe, outrée de la décision de Louis XIV d'accepter cette couronne d'Espagne pour son petit-fils, l'Europe s'est coalisée contre la France, et les deux grandes puissances maritimes que sont l'Angleterre et les Pays-Bas ont bien l'intention de récupérer la cargaison mirifique de cette flotte franco-espagnole qui rapporte en Europe les richesses accumulées dans les ports américains. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait de traversée, vous imaginez. Les galions sont pleins à ras-bord. Les Espagnols ne tardent pas à apprendre que des navires de guerre anglais et hollandais attendent leur convoi du côté de Gibraltar, enfin à portée de Cadix. et Château-Renaud, qui est avisé du danger, préconise de tailler de court, de déjouer l'embuscade anglo-hollandaise et de mettre les galions chargés d'or et de trésors dans le port fortifié français de La Rochelle. Comme ça, ils seront bien à l'abri. C'est peut-être une bonne initiative, seulement l'amiral espagnol, pour sa part, se méfie. Une fois les trésors mis à l'abri en France, quelle garantie aura-t-il en effet que le roi de France, si puissant, qui a tellement besoin d'argent pour faire face à la guerre, comment sera-t-il certain que Louis XIV ne va pas confisquer le précieux chargement de sa flotte. Velasco, en termes choisis, diplomatiques, fait part de sa méfiance à Château-Renaud et finalement, les galions espagnols chargés d'or et d'argent à ras-bord, toujours escortés par les bâtiments de guerre plus légers de la royale française, tous ces navires mettent le cap non plus sur Cadix, ce serait vraiment trop loin, trop risqué, mais sur un port espagnol plus proche, sur Vigo. Nous y voilà. Du coup, les plans anglo-hollandais sont déjoués. Les galions espagnols mouillent comme prévu en baie de Vigo. Le trésor est sauf, croit-on, à tort. Tout le malheur est arrivé à cause d'un ambassadeur allemand à Lisbonne qui se promène au Portugal. Il est un jour dans une auberge à Lagos, au sud du Portugal, et il lâche le morceau. Il y a là dans cette auberge un faux ecclésiastique qui se trouve être un vrai espion, qui apprend la nouvelle du refuge du trésor flottant en baie de Vigo. Et il transmet la nouvelle aux Anglo-Hollandais. Aussitôt, les navires de guerre qui attendaient en embuscade au large de Cadix font cap vers le nord. L'escadre de combat cingle à présent vers Vigo. Mais me direz-vous, avant qu'il n'arrive, les Franco-Espagnols auront eu le temps de décharger tous leurs trésors. Eh bien non, ce n'est pas si simple. Parce qu'à Vigo, l'arrivée de tous ces galions chargés d'or a soulevé de très lourdes difficultés. Outre que le port était trop petit pour les accueillir tous, se posaient d'épineuses questions administratives et surtout fiscales. Presque tout de suite, la ville de Cadix a fait valoir ses droits de destination. Elle a interdit que soit débarquée la moindre marchandise à Vigo. Alors le roi d'Espagne a envoyé sur place un de ses messagers pour essayer de se débattre avec cette situation inextricable et en attendant, tout ça bloque les galions dans la baie, loin des quais. Vous devinez la suite. La bataille navale, si l'on peut ainsi décrire ce qui va être un véritable assaut, un assaut furieux bord à bord des deux flottes, la bataille navale va pouvoir avoir lieu en baie de Vigo avec les conséquences désastreuses qu'on imagine déjà.
The Battle of Kerak, extrait de la bande originale de Kingdoms of Heaven, signé Ridley Scott.
Alors, Franck. Oui, c'est une terrible bataille navale. Hein. Il faut imaginer la flotte anglo-hollandaise surarmée face à la flotte franco-espagnole qui est en position de défense et de faiblesse, des combats furieux d'une brutalité folle, aggravés d'incendies terribles qui auront transformé les navires en brasiers avant d'envoyer le plus grand nombre par le fond, dont la quasi-totalité des galions chargés de richesses, des tonnes et des tonnes d'or, d'argent, de pierres précieuses, tout ça qui coule au fond de la baie de Vigo. Vous imaginez, Julia, le bruit qu'a pu faire l'engloutissement d'un tel trésor dans toute l'Europe de l'époque. Même si, évidemment, la couronne espagnole a des droits sur le trésor et qu'elle a fait savoir tout de suite aux plongeurs et aux éventuels chasseurs d'épaves qu'elle ne leur laisserait qu'un vingtième des trésors repêchés. Mais un vingtième de telle richesse, ça continue à valoir la peine, évidemment. On peut imaginer que dans les années 1703, 1704, 1705, l'évocation de plongeurs en apnée et de pêcheurs côtiers font florès en baie de Vigo. Seulement, en vérité, c'est pas si simple que ça en a l'air. À cet endroit, les fonds sont particulièrement tourmentés, profonds, escarpés. La baie de Vigo est tout sauf plate et récupérer les trésors engloutis se révèle bientôt d'une difficulté quasi diabolique. Du reste, un quart de siècle va passer sans que l'on parvienne à repêcher quoi que ce soit ou en tout cas vraiment pas grand-chose. Et puis, en 1728 arrive un certain Alexandre Goubert. On est toujours dans cette monarchie espagnole Bourbon, hein, avec des liens très privilégiés entre la France et l'Espagne. Goubert, pendant des semaines et des mois, avec un savoir-faire du reste assez en avance sur son temps, va faire ratisser les fonds de la baie jusqu'au jour où ces hommes finissent par crocheter une épave que l'on commence, vous imaginez, avec d'infinies précautions, à treuiller lentement vers la surface. Il faut imaginer la foule qui accourt de tous les environs pour voir cette masse noirâtre et ruisselante sortir au bout de cordages pleins d'algues et de détritus. Et puis là, déception, il s'agit en fait non pas d'un des galions espagnols chargés d'or, mais d'un des vieux navires français de l'amiral de Château-Renaud. La foule se moque beaucoup du pauvre Goubert qui en est bon pour s'en aller sous les Lazzi. Pendant plusieurs années, de nouveau, on laisse tomber, si je puis dire, ce trésor. Et puis, au bout de quelques années, c'est un Anglais. Il faut quand même avoir du culot, parce que c'est les Anglais qui ont fait couler quand même les galions espagnols. C'est un Anglais qui arrive avec une découverte étonnante. Il a inventé une sorte de cloche à plongeur qui va lui permettre non pas d'essayer de remonter les épaves à la surface, il ne va pas jusque-là, lui. Il veut seulement visiter les fonds marins. Et d'ailleurs, ça marche, puisqu'il commence à ramener quelques chandeliers, quelques plats d'argent, etc. Ça commence à faire du bruit. L'opinion publique s'en mêle. On se dit, mais enfin, c'est incroyable qu'un Anglais vienne récupérer nos trésors. Et finalement, la couronne d'Espagne interdit à l'Anglais de continuer ses recherches. C'est en 1825 qu'un Écossais, cette fois, va essayer de s'y colter. Alors, cet Écossais a obtenu, lui, la possibilité de récupérer 20% de ce qu'il trouvera. Ça vaut la peine. Sauf qu'en réalité, il commence à trouver un petit magot. Il le monte sur son propre navire et sans dire rien à personne, il cingle d'emblée vers l'Écosse en emportant la totalité de ses trouvailles. Ça fait de nouveau un scandale. Ensuite, c'est une société américaine qui va s'en mêler. Elle s'appelle la Compagnie Sous-Marine Internationale. Alors là, les Américains mettent de gros moyens et ils vont prospecter les fonds de la Bête Vigo pendant 50 ans. Oh, 50 ans, ça nous laisse largement le temps d'écouter un petit écran de publicité.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avec un récit sur Europe 1 qui s'intéresse aujourd'hui au trésor de la baie de Vigo qui n'a pas fini d'enflammer les imaginations, Franck.
Et oui, alors pendant tout le 19e siècle, on fait des recherches. Donc les Américains, au bout de 50 ans, finissent par baisser les bras. C'est un Français qui va prendre la suite sous le Second Empire, un certain monsieur Magin, qui est associé avec un monsieur Saint-Simon Sicard. Alors, ils vont faire des petites découvertes. Ils remontent un manche de poignard, des ossements humains, une petite sébile en argent, un haut talon d'escarpin, des boucles de souliers, des encriers carrés et à tiroirs, un petit vase de forme gracieuse, un long étui de pipe en bois. Vous allez me dire, oui, mais enfin, on est très loin des tonnes et des tonnes d'or et d'argent qui font rêver tout le monde. Un de nos auditeurs, il s'appelle François, va être ravi puisqu'il me disait l'autre jour, pourquoi ne citez-vous pas plus souvent le nôtre? Vous savez, notre ami, le pape évidemment de la petite histoire, Gosselin le Nôtre. Ben, je vais le citer précisément parce qu'il s'est beaucoup intéressé à cette campagne de recherche. Il nous dit chose singulière, c'est le nôtre qui parle. Les bibelots les plus fragiles semblaient être les mieux conservés. On retira de l'almirante un petit pot de porcelaine mexicaine, un verre à pied, des pliants, des dévidoirs, une boussole, un vase de porcelaine de Saxe, trois tasses de porcelaine chinoise, des statuettes, une grande quantité d'éventails, enfin, etc. Bref, des petites choses, quoi, vraiment des petites choses. Le 5 avril, nous dit le nôtre, grand émoi, monsieur Magin vit accourir à lui ses deux ingénieurs agitant leurs mouchoirs en signe de triomphe. Cette fois, nous la tenons, criait-il. On s'embrassa. On venait de trouver sur l'épave de l'almirante un lingot qui semblait être de plomb et qui était d'argent pur. Il pesait 2 kilos. Le lendemain matin, nouvelle découverte aussi précieuse. Et dans l'après-midi, le plongeur Chapalin, émergeait chargé d'un nouveau lingot du poids de 30 kilos. Ça, c'était le début du trésor. Sauf que Monsieur Magin a besoin de nouveaux fonds pour poursuivre. Il part à ce moment-là pour Paris. Et quand il revient à Vigo, on est le 15 juillet 1870. 10 jours plus tard, nous dit Gosselin le Nôtre, la France était en guerre et l'on dut abandonner l'expérience au moment même où naissait l'espoir d'un résultat probant. Ah, cet espoir, évidemment, il va se maintenir, il va se perpétuer de génération en génération. En 1904, on voit le chevalier Pinault de Gênes monter lui-même toute une entreprise. Il arrive avec une invention étonnante qu'il appelle l'hydroscope, qui est une sorte de cloche à plongeur qui permet d'illuminer le fond de la mer. Il a des inventions étonnantes. Il s'est associé, hein, ce monsieur, avec un certain Iberti qui lui donne des fonds et qui lui permettent de réaliser des espèces de grosses poches, si vous voulez, comme des espèces de parachutes sous-marins qu'on peut gonfler et qui permettent de remonter les choses à la surface. Donc on se dit qu'on va peut-être pouvoir renflouer les épaves. Et puis il a aussi inventé, ce Pinot, des espèces d'énormes pinces qui sont comme des espèces d'énormes pinces à homard, mais des pinces grossies 10 000 fois, si vous voulez. Néanmoins, tout ça est très difficile. La baie, je vous l'ai dit, est très profonde. Les travaux sont d'une ampleur impressionnante. Les coûts sont vertigineux. Le matériel se fatigue très vite. Bref, Pinot, comme les autres, va finalement décider d'abandonner. Vous verrez, parce que nous allons y revenir avec Éric Surcouf dans un instant, que bien d'autres tentatives ont été menées, même là, jusqu'à des périodes relativement récentes. Pour l'instant, le seul qui ait réussi à repêcher quelque chose de très substantiel dans cette baie de Vigo, c'est évidemment le capitaine Nemo et ses compagnons du Nautilus. Il suffit pour s'en assurer de rouvrir le chef-d'œuvre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Finalement, le trésor de Vigo est bien réel, mais les découvertes qu'on a pu en faire, pour l'instant, sont demeurées tout à fait imaginaires.
Jusqu'à 14h sur Europe 1,
plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
Et dans un instant, tout de suite d'ailleurs, si vous voulez, nous accueillons Éric Surcouf. Bonjour, merci beaucoup Éric Surcouf. Vous êtes un des grands chercheurs de trésors. Vous êtes habitué, vous, à faire des plongées sous-marines et à aller rechercher des épaves englouties. Il faut que vous nous disiez d'abord d'où vous vient ce sublime nom. Comment s'appelle-t-on Surcouf ?
Tout d'abord, bonjour. Mais écoutez, vous savez, je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-neveu du roi des corsaires de Saint-Malo, Robert Surcouf.
Et ça prédispose, ça, quand même.
Bah oui, parce que j'ai été bercé, si vous voulez, toute ma jeunesse par, bien sûr, les fabuleuses aventures de mon illustre aïeul. J'étais à la maison entouré de tableaux avec des scènes d'abordage. Il y avait des maquettes de bateaux extraordinaires. Et puis, donc, très vite, je me suis intéressé à pourquoi, ce roi des corsaires, mon aïeul, s'attaquait au navire de la compagnie anglaise des Indes orientales. Et puis, je me suis aperçu que, en plus du thé,
Il était missionné et
des épices. Alors, bien sûr, il était missionné par des armateurs qui avaient une autorisation du gouvernement français, ce qu'on appelait la lettre de marque, qui permettait de faire la course, d'où le mot corsaire.
Corsaire, c'est toute la différence entre les corsaires et les vulgaires pirates.
Voilà. Alors, il y a une petite différence, disons. Mais enfin, c'est vrai que les pirates étaient des bandits de mer et attaquaient tous les navires de toute nationalité, alors que les corsaires n'attaquaient les navires marchands que des pays qui étaient en guerre.
Exactement, ennemis.
Et alors donc, je me suis aperçu, c'est lui, qu'il y avait quand même, en plus de toutes ces marchandises, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, les fameux diamants, des mines de Golcong en Inde, etc. Et donc, c'est vrai que, la mer, l'histoire que je commençais à adorer de plus en plus, et puis ces fabuleux trésors qui étaient là, que peu de gens allaient récupérer, qui en fait appartenaient à l'humanité, en quelque sorte, il fallait absolument que je parte à leur recherche.
Vous venez de publier chez Artaud un très bel album sur tous les trésors, non seulement sous-marins, mais également terrestres. Alors tout à l'heure, évidemment, vers la fin de l'émission, on va les égrener, si vous voulez, tous ces grands trésors qui continuent aujourd'hui de faire rêver les nombreux chasseurs de trésors. Vous aurez peut-être d'ailleurs quelques conseils à leur donner, à ces chasseurs de trésors. Mais d'abord, revenons sur cette affaire de Vigo. Cette flotte espagnole protégée, mal protégée en l'occurrence par les Français, qui coule à pic en baie de Vigo, chargée jusqu'à ras-bord d'or et d'argent, coulé par les Anglais et par les Hollandais, et dont on n'a pour l'instant pas retrouvé ne serait-ce qu'un centième du trésor. C'est incroyable cette histoire. Il est toujours au fond de l'eau, le trésor, à l'heure où je vous parle ?
Oui, tout à fait. Le seul problème, c'est que dans la baie de Vigo se déversent deux rivières qui charrient beaucoup de terre, et donc il y a des mètres et des mètres de vases, et c'est extrêmement difficile effectivement de pouvoir remonter ces épaves, qui en plus étaient en bois, donc
Avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, on devrait y arriver.
On va y arriver.
On va y arriver un jour.
On va y arriver.
À qui appartiendra le trésor qu'on aura découvert ?
Alors là, ça c'est la loi espagnole, hein, qui bien sûr est en vigueur. Chaque pays d'ailleurs a une loi particulière, hein. Et donc si l'Espagne accepte effectivement de remettre, ce qui n'est pas le cas en France, hein, de remettre, je dirais, une grosse partie du trésor, comme c'était le cas d'ailleurs il y a quelques années, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à ce moment-là, il va y avoir des candidats qui vont se présenter. si effectivement l'Espagne suit la même politique malheureusement qu'il y a en France, eh bien il va y avoir des pilleurs.
Des galions espagnols pleins à craquer des richesses du Nouveau Monde et qui sont naufragés un peu partout sur les côtes de l'Atlantique, il y en a quand même pas mal. Nous y revenons dans un instant avec vous, Éric Surcouf.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et on vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Éric Surcouf, qui est chercheur de trésors archéologiques sous-marins et terrestres.
Et oui, et qui vient donc de publier chez Artaud, Trésors terrestres et sous-marins, ces fabuleux trésors et leur chasse effrénée. Est-ce qu'aujourd'hui encore, la chasse aux trésors est ouverte, Éric Surcouf? Est-ce que ça a autant de succès que à la grande époque, j'ai envie de dire, des années 50 et 60, où vraiment tout le monde se passionnait pour ces questions?
Ben je dirais oui, de plus en plus.
De plus en plus.
Parce que les techniques évoluent et on peut effectivement trouver aussi bien des épaves que des trésors terrestres de plus en plus profonds. Et on a avec des radars soit héliportés, soit aéroportés, soit même des analyses de photos satellites, etc. Et puis bien sûr des équipements de détection de plus en plus perfectionnés, on a la possibilité de trouver de plus en plus de trésors. Oui.
J'ai donc sous les yeux cette carte des grands trésors engloutis. Vous nous racontez dans ce très bel album, Éric Surcouf, vous nous racontez le destin de tous ces galions espagnols. C'était des proies terribles évidemment et donc il était fréquent qu'il fasse naufrage.
Ben disons que effectivement c'était des navires qui étaient chargés et même je dirais surchargés parce que les galions étaient les seuls navires qui avaient des canons et donc on chargeait sur les autres petits navires tout ce qui était bois, fourrure, sucre, etc. Et sur les galions on mettait tout ce qui était or, tout ce qui était argent, tout ce qui était pierres précieuses, perles, etc. Et ces galions qui étaient relativement peu manœuvrants, étaient la proie des navires, entre autres des navires pirates, qui eux étaient des navires beaucoup plus légers et beaucoup plus manœuvrants sur la mer. Donc c'est vrai que...
Et lorsque le galion coulait, il coulait avec l'essentiel de sa cargaison précieuse.
Quand il coulait généralement avec toute sa cargaison.
Avec toute sa cargaison. Tout ce que les pirates n'avaient pas eu le temps d'arracher à ses soutes.
Oui, s'ils avaient eu l'opportunité de monter à l'abordage, là effectivement ils pillaient le navire. Mais enfin disons que très souvent le galion était frappé par des boulets et couler comme ça en haute mer. Alors, mais ce ne sont pas, disons, les cibles privilégiées pour les chasseurs de trésors, parce que ces galions sont maintenant très profonds.
C'est ça.
Alors, nous, chercheurs de trésors, on recherche plutôt des navires, non pas qui ont été jetés à la côte, parce qu'en général, les indigènes des différents pays s'empressaient de sauter sur l'épave, mais ce sont surtout des navires qui ont heurté des récifs. Et à l'époque, les routes maritimes étaient très peu connues, donc les récifs étaient pratiquement inconnus. Et les fameuses cartes de l'époque, les fameux portulans, ne mentionnaient pas toujours ces dangers.
Donc là, ils sont plus accessibles pour les chercheurs, évidemment.
Tout à fait.
Le cas des galions engloutis de la baie de Vigo est un peu frustrant, puisqu'ils n'ont pour l'instant quasiment rien livré. Est-ce qu'il y a des épaves de ces grands navires espagnols, portugais ou autres, du reste, qui ont livré leurs trésors, ou tous leurs trésors, à ce jour ?
Ah oui, bien sûr. Mais enfin, il y en a un nombre assez restreint. Hein. On estime que moins de 10% des navires qui transportaient des trésors, enfin, tels qu'on peut, je veux dire, appeler trésors, c'est-à-dire des matières précieuses, des métaux précieux, ont été trouvés aujourd'hui. Donc ça veut dire que 90% de ces navires, qui sont d'ailleurs pour la plupart répertoriés en archives, donc on connaît à peu près l'emplacement, sont encore à trouver. Donc ça laisse, disons, du temps et de la place pour mes successeurs.
Vous consacrez des chapitres aux caracs portugaises, aux flûtes hollandaises, aux vaisseaux anglais. Les recherches sous-marines ne sont pas seulement des recherches sportives. Il y a tout un travail, vous venez de le dire, un travail de recherche en amont. L'archive est peut-être le secret de l'affaire.
Je dirais que les recherches en archive, c'est la période la plus importante. On dit que chaque heure passée en archive peut sauver des centaines d'heures passées sur le terrain. Donc, d'ailleurs, une recherche en archive n'est jamais finie en soi. On s'arrête en général au bout de quelques mois et puis on décide qu'effectivement tel navire au large de telle côte, de tel pays, etc., est intéressant pour telle et telle raison. On fait une liste. On ne cherche jamais un seul navire, mais on a toujours des solutions de rechange. Et cette recherche est extrêmement extrêmement, extrêmement importante. Parce que très souvent, des groupes amateurs peuvent imaginer que des endroits dangereux peuvent effectivement receler des épaves. Ils vont sur cet endroit dangereux, ils trouvent effectivement 5 pièces d'or et un canon, et là, ils vont s'évertuer pendant 6 mois à perdre leur énergie, tout leur argent et tous leurs espoirs.
Alors après avoir très longtemps rêvé du Télémaque, il y a un autre grand navire, peut-être plus concret, substantiel, qui me fait rêver et dont vous parlez magnifiquement, c'est le Soleil d'Orient.
Ah oui.
Grand navire, vaisseau français. Hein, alors
c'était un vaisseau français effectivement qui était au Siam, l'ancienne Thaïlande. Et le roi de Siam a voulu envoyer un navire rempli de présents royaux à Louis XIV. Avec ses ambassadeurs. Il avait une admiration sans bornes pour Louis XIV. Il a voulu lui faire vraiment un cadeau somptueux. Et alors, il a envoyé ce navire, il a affrété donc le Soleil d'Orient, et il a envoyé ce navire avec des ambassadeurs qui étaient là, avec leurs grands chapeaux pointus. Enfin bon, il y avait des petits
éléphants. Un peu les mêmes que ceux qui arriveront après, mais qui sont une seconde ambassade, celle qui a été reçue à Versailles.
Voilà, c'est-à-dire qu'une fois, si vous voulez, que ce Soleil d'Orient n'est pas arrivé, puisque, à peu près 4 ans après, quand il s'est dit quand même, le roi Louis XIV n'est pas très gentil, il aurait pu quand même m'envoyer un ambassadeur pour me remercier. Il s'est rendu compte effectivement que le navire n'était jamais arrivé. Ce navire contenait quand même 60 caisses de présents royaux. D'ailleurs, tout est en or, en argent, en vermeil, etc. Bon, j'ai un inventaire de 29 pages. Vous lisez cela, vous dormez pas pendant une semaine. C'est absolument, absolument incroyable. Et donc, il a envoyé quelques années après un second navire, un petit peu plus petit, qui lui est arrivé à Brest. Et on raconte que tout le long du trajet entre Brest et Paris, puisqu'ils ont été reçus quand même à l'hôtel des ambassadeurs extraordinaires avant d'être reçus dans la galerie des glaces, il paraît que toute la foule amassée le long de la route était éblouie par bon. Et là on a effectivement
Vous savez où il est, le Soleil d'Orient?
Alors je pense à 99% savoir où il est. Il y a eu deux groupes internationaux qui l'ont cherché, mais ils l'ont cherché au mauvais endroit. Et vous savez, quand je disais tout à l'heure que les recherches en archives ne sont jamais terminées, ça fait maintenant pratiquement une trentaine d'années que je recherche ce navire et que je croise, je dirais, des informations avec certains archivistes. Je suis tombé sur des archives où je ne devais pas normalement trouver des informations, et j'ai trouvé des informations extrêmement précieuses. Donc je ne peux pas dire 100% parce que ce serait, disons, idiot de ma part, mais à 99%, je sais où se trouve ce navire.
Nous croisons les doigts avec Julia.
Ardemment, oui.
Parce que non seulement ce serait évidemment une très belle découverte du point de vue du trésor, de sa richesse, mais ce serait une très belle découverte historique aussi, avec tout ce que ça nous apprendrait. Je dirais que c'est ça le véritable trésor. C'est celui pour lequel la richesse intrinsèque se mêle à la richesse artistique.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
On annonce la couleur. Vous êtes un peu notre Indiana Jones, Franck. Les aventuriers de l'Arche perdue sur Europe 1.
Mais le véritable Indiana Jones, nous l'avons dans ce studio, Julia.
On nous donne les chances.
C'est Éric Surcouf qui est avec nous et nous l'en remercions beaucoup. Alors nous avons parlé de toutes ces épaves, de tous ces naufrages et donc de l'archéologie sous-marine. J'aimerais qu'on en vienne au trésor terrestre maintenant qui occupe presque la moitié de votre ouvrage. Il faut quand même dire d'emblée, je crois que c'est important de le souligner, Éric Surcouf, qu'il y a une espèce de concurrence entre l'archéologie officielle et les chasseurs de trésors privés quand même. Il y a un peu une guéguerre, disons-le, depuis très longtemps.
Effectivement, oui, depuis assez longtemps. Je dirais que, parlons de la France, parce que pays. Il y a une loi qui a été votée qui interdit les groupes privés de remonter les trésors sans en faire part, bien sûr, dans un délai de 48 heures au bureau des affaires maritimes, qui ensuite en parle à un petit département du ministère de la Culture qui s'appelle le département des recherches subaquatiques et sous-marines, des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines, donc le DRASM. Et cette politique qui est de refuser qu'il y ait un partage, comme de pas mal de pays d'ailleurs avec lesquels j'ai travaillé, accepte le principe de faire un partage à 50-50, non pas 50-50 du trésor, c'est-à-dire que je fais stipuler dans les contrats que tout objet qui présente un caractère unique sur le plan culturel, historique, archéologique, etc., peut être préempté d'office par le pays. Donc ça veut dire qu'on suit les recommandations de l'UNESCO et on ne pille absolument jamais, jamais, jamais le patrimoine national. Et ça, malheureusement, en France, ça n'est pas du tout appliqué. Ce qui fait que lorsque, par exemple, pour mon cas personnel, j'ai découvert une épave sur un territoire français qui était une des îles éparses, par exemple à Bassas da India, qui est dans le canal de Mozambique, bon, on devient à ce moment-là l'inventeur, c'est-à-dire le découvreur de l'épave. Eh bien, si on n'a pas le droit effectivement à une récompense, je dirais, substantielle, eh bien, les gens, la fois prochaine, ils pillent.
Eh bien, évidemment.
Et la France est un des pays les plus pillés au monde. Rendez-vous compte, la côte atlantique, avec tous les navires hollandais, anglais, français qui remontaient, etc. Il y a beaucoup des épaves qui ont coulé et on n'entend jamais parler de découvertes. Alors, contrairement aux pays anglo-saxons, Angleterre, États-Unis, etc., Canada, enfin Australie, Afrique du Sud, où là il y a plein de petits musées maritimes qui bordent les côtes.
Parce que c'est plus équilibré, tout simplement.
Parce qu'ils ont ce qu'on appelle le Treasure Act.
C'est ça.
Qui donne, je dirais, un droit à l'inventeur.
Aux découvreurs, voilà. Aux inventeurs, comme on dit.
Aux inventeurs, voilà.
Donc quittons, si vous voulez, les mers et les côtes, entrons dans les terres pour évoquer, alors vraiment à grands traits, juste quelques mots, mais le trésor des Visigoths, ça voilà une chose, le trésor d'Alaric, hein, ça a fait tellement, tellement rêver pendant tant de générations.
Oui, il y a le trésor des Visigoths, mais il y a aussi d'autres trésors. Il y a le trésor de Troyes, qui est un trésor qui est, on ne pensait
découvert
pas.
Découvert par Schliemann, voilà, c'est une très belle histoire.
Oui, c'est une histoire extraordinaire parce que personne ne croyait. Personne ne le croyait jusqu'au moment où il a prouvé qu'il avait raison. Et ils ont trouvé des choses absolument extraordinaires.
Il y a des découvertes archéologiques majeures dont vous nous faites part, évidemment, celle du trésor de la tombe de Toutankhamon en 1922, qui a été un coup de fouet terrible à l'égyptologie, à l'égyptomanie aussi, disons-le. Des trésors beaucoup plus sulfureux ou voire douteux, comme celui de Rennes-le-Château. Je me demandais tout à l'heure, je me demandais quand on a préparé cette émission, si nous ne parlerions pas d'ailleurs plutôt de Rennes-le-Château, puis je me suis dit que c'est plus amusant de parler de la baie de Vigo, parce qu'on a, sur la Bessonnière, que n'a-t-on pas dit finalement ? On lui a beaucoup prêté.
Oui, il y a énormément de livres, effectivement, qui ont été écrits sur cette abbaye qui
d'ailleurs,
en fait,
une affaire liée, plus ou moins, à celle du trésor des Visigoths ou des Templiers, parce que bon...
Tout à fait, moi je suis tout à fait d'accord avec cela. C'est un abbé, un jour, qui est muté, on peut dire, dans un petit village tout à fait, je veux dire, retiré, et il y a une église qui est en ruine, bon, il décide de la réparer, et puis il découvre effectivement derrière une pierre des manuscrits, et puis il renvoie les ouvriers qui sont avec lui, et depuis ce jour-là, il y a un grand mystère qui plane sur cette histoire, parce que il commence à, alors avec sa gouvernante qui est d'ailleurs sa maîtresse, bon, l'histoire l'a prouvé, il part la nuit comme ça se promener dans la campagne, on le voit souvent passer, mais on ne sait pas où il va. Et il commence à accumuler une fortune extraordinaire. Il fait construire des propriétés. Enfin, c'est un homme qui devient très riche. L'homme le plus riche et de loin
alors
du village.
Alors on se demande d'où a bien pu venir cette fortune.
Voilà, voilà. Bien sûr, il y a toute une histoire extraordinaire là-dessus. Voilà.
Alors j'ai été très sensible à votre chapitre sur le trésor des tsars, puisque j'ai moi-même écrit un roman là-dessus, sur le trésor des Romanov, qui est une grande et vaste et nébuleuse question, pour tout dire. L'un de ceux dont on parle le moins et qui pourtant est peut-être le plus impressionnant et le plus intéressant sur un plan historique, c'est le trésor des nazis. On devrait même préciser celui des SS, en l'occurrence. Ça, c'est nettement moins drôle et ça reste une énigme historique à ce jour.
Disons qu'il y a une grosse partie du trésor, effectivement, ramassé par les nazis qui n'a pas encore été trouvé. Alors, c'est vrai qu'on connaît, l'amour que Göring avait
pour les œuvres d'art,
les tableaux, etc. Donc, il avait une collection vraiment extrêmement importante. Mais les trésors en or, surtout, nazis sont encore enfermés dans des mines, dans des endroits tout à fait secrets. Enfin, secret, pas tellement secret. Il y a encore des gens qui sont au courant de cela, mais là, on entre dans un monde très, très, très spécial et très dangereux.
Sans mauvais jeu de mots, c'est une véritable mine pour les romanciers, cet album sur les trésors. Évidemment, on a à chaque fois une véritable... C'est un creuset, hein, c'est une matrice à romans, à histoires, à aventures, à découvertes, énigmes, etc. C'est très passionnant. Quels sont vos propres projets à vous, Éric Surcouf ? Vers quoi allez-vous orienter vos prochaines recherches ?
Mais écoutez, là, depuis maintenant une trentaine d'années, effectivement, je m'étais spécialisé, entre guillemets, disons, dans la... Parce que c'est une passion, c'est pas un métier, hein, sur les épaves sous-marines, les épaves de navires. J'en ai remonté une dizaine, que ce soit des galions espagnols, caraques portugaises, comme vous disiez, navires de compagnie des Indes, hollandais, français, anglais. Et puis là, je suis en train de faire un peu une parenthèse sur les recherches sous-marines. Je vais m'attaquer à des trésors terrestres. Alors, en parallèle de ça, bon, je suis cofondateur du Nord-Sud Institute, qui va d'ailleurs se charger en partie de, enfin, entre autres, de la formation des nouveaux aventuriers, parce qu'il faut quand même passer le relais, hein, il faut bien qu'il y ait une relève des aventuriers comme nous qui commençons. Bon, je pense pas que je suis vieux, mais enfin, disons que dans quelques années, je commencerai à être un petit peu vieux. Il faut penser à l'avenir.
Passer le flambeau, oui.
Voilà. Alors, bon, c'est vrai que si vous voulez, il y a ce Nord-Sud Institute qui est là et qui va lancer de nouveaux projets. Et alors, j'ai effectivement, entre autres, un projet très important que je prépare maintenant depuis pratiquement 5 ans, qui est un projet de recherche de trésors, mais alors terrestres cette fois-ci, en Amérique du Sud. Bon, pour l'instant, je peux pas dire exactement le pays parce que bon, mes partenaires ne veulent pas que je le dise, mais et je suis d'ailleurs en ce moment en train de chercher une partie du financement pour ce projet. Et là, on est sur des trésors, alors bien sûr en toute légalité, avec main dans la main avec les gouvernements locaux, sur des trésors qui concernent plusieurs dizaines de tonnes d'or.
Ah oui,
c'est absolument extraordinaire. Il y a alors d'origines diverses, hein, que ce soit des mines d'or secrètes des jésuites, que ce soit de l'or qui a été enterré par tonnes entières lors de guerres locales, enfin, etc. Voilà.
Donc, vous avez une belle passion, Éric Surcouf. Trésor terrestre et sous-marin, c'est édité chez Artaud et je vous promets que ça fait beaucoup rêver. Merci beaucoup à toute l'équipe, à Lorena, à Nicolas, à Guillaume. Et nous nous retrouvons demain sur une autre énigme historique.